Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous écoutez Disparu, le podcast des disparitions mystérieuses. Donc c'est Lionel Camille, je fais cette émission spéciale pour réagir à chaud sur mon actualité. Je viens juste de réaliser une émission sur YouTube, sur Nurea TV, une émission consacrée à la disparition mystérieuse de Maura Murray. Donc une affaire fascinante, incroyable. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment chez les copains québécois de Distorsion Podcast. D'ailleurs, je salue Sébastien et Émile. Voilà, donc moi, il se trouve que, hasard ou coïncidence, je travaillais sur ce dossier aussi depuis de nombreux mois. Je viens de livrer le résultat de mon travail. Donc, je viens de finir cette émission qui dure près de 3 heures, donc je ne ferai pas de podcast audio sur cette affaire, a priori. Je vous renvoie vers cette émission. L'intérêt de cette émission, c'est que j'ai pu, pendant 3 heures, développer vraiment cette histoire à l'aide de photos, d'archives, d'images, de cartes. Donc, cette vidéo est disponible en replay sur YouTube. J'ai mis le lien dans l'article du podcast. Sinon, vous pouvez retrouver tout ça facilement sur mon blog ou en tapant dans Google « Lionel Camille Maura Murray », vous tomberez forcément dessus. Voilà, donc cette émission vous attend. Ainsi qu'une autre, j'en profite aussi pour vous informer que j'ai fait une autre émission aussi sur la disparition, cette fois de Elisa Lam. Elle dure pratiquement 2h30 elle aussi. Donc vous voyez, là vous avez pour près de presque 5h30 deux programmes gratuits qui vous attendent. Et si ça vous rebute de regarder les images, vous n'êtes même pas obligé de regarder les images. Vous pouvez laisser, vous faites comme moi. Moi, ça m'arrive fréquemment d'écouter des émissions sur YouTube. Je m'en sers comme une radio, en fait. Voilà, je laisse ça en bruit de fond. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester rivé sur l'écran pendant 3 heures. Voilà. Donc, c'était juste pour vous informer de cette actualité, je dirais pas brûlante, mais bon, assez chaude. Surtout que c'est vrai que sur ce coup-là, c'est vraiment cool parce que on travaille un petit peu de chaque côté de l'Atlantique pour essayer d'aider peut-être, donner un coup de pouce à cette affaire, pour aider peut-être à résoudre le mystère, donc avec les amis québécois de Distorsion notamment. Je vous renvoie donc vers ces émissions. Et je tiens à remercier Guillaume de Nurea TV qui m'a autorisé exceptionnellement à vous diffuser les 20 premières minutes de l'émission en version audio. Donc merci à lui, donc je vais vous diffuser ça tout de suite. Ça vous donnera une idée du contenu de l'émission. Et si après vous voulez voir cette émission dans son intégralité, elle est disponible. Voilà, elle est sur YouTube. Donc je vous laisse tout de suite avec cette émission. Je vous dis à très bientôt. Vous allez pouvoir d'ailleurs écouter les deux derniers épisodes sur la disparition de Brandon Lawson. Ça va venir. Mais bon, c'est vrai que là, comme l'actualité était vraiment assez chargée, j'ai souhaité faire cette émission spéciale pour vous informer que cette émission existe et que si vous voulez en savoir plus, vous savez où aller. Voilà.
Et toi, Lionel, je te laisse nous raconter ce cas de disparition mystérieuse, le cas Maura Murray.
Ok. Donc, on va partir dans l'état du New Hampshire. Donc, c'est un état donc, au nord-est des États-Unis, près de la frontière avec le Québec, dont on va beaucoup parler ce soir. Voilà. Donc, on parle souvent du nord-est des États-Unis dans cette série d'émissions.
C'est vrai. Voilà.
On va remonter il y a 14 ans. On va remonter au 9 février 2004, le lundi 9 février 2004. On va aller à Haverhill, c'est une petite bourgade rurale d'environ 4700 habitants, qui est la dernière zone d'habitation avant une grande forêt. Il y a une forêt énorme là, la forêt d'État de Black Mountain. Vous allez voir ça sur une carte, c'est très clair. Vous voyez, on est vraiment à la limite là. Il y a une grosse zone en vert. Ça, c'est que de la forêt, et c'est que le début parce que après, on verra que vraiment il y a une énorme étendue. Après, il y a la White Mountain, voilà. Donc, on est sur la route 112. Donc là, vous pouvez pas la louper sur la carte. C'est une route sinueuse, donc à l'est de Haverhill, voilà. Donc, ce lundi soir, on est à peu près après 19h, en fait, entre 19h et 19h30. Voilà. La nuit est déjà tombée, on est au cœur de l'hiver, donc le sol est partiellement couvert de neige, et la température ne dépasse pas 1 degré. Voilà. Il y a un homme qui s'appelle Butch Atwood, qui rentre chez lui après sa journée de travail. Donc il emprunte cette route, cette route qui est enneigée, c'est une route très rurale, voilà. Donc Butch Atwood, il est conducteur de bus scolaire. Voilà. Donc là, il rentre chez lui. Donc Atwood, il vit dans une maison isolée à la sortie est de Haverhill, dans un hameau qui s'appelle Woodsville. Mais bon, en fait, il appartient administrativement à Haverhill, c'est toujours Haverhill, voilà. En fait, la maison de Atwood, c'est quasiment la dernière maison. Après, c'est la forêt. Donc, Atwood, il conduit, quoi. Il roule sur la route 112. Voilà. Une route sinueuse, bordée de neige. Il n'y a pas grand monde sur la route. Hein. C'est le soir, donc. Les quelques habitants du coin se calfutrent chez eux pour passer la soirée. Atwood, il est presque arrivé chez lui. Il n'a plus qu'à prendre un virage à angle droit sur la gauche, dont on va beaucoup parler. Et il doit rejoindre ensuite sa maison à environ 100 mètres. Donc à cet endroit, la route s'appelle la route 112 s'appelle Wild Amunuzuk Road. Voilà, bon, c'est la route 112, c'est pareil. Donc Atwood tourne dans le virage à 90 degrés, c'est vraiment un virage très très raide, quand soudain il aperçoit devant lui une voiture arrêtée sur la route. Donc apparemment, elle a fait un tête-à-queue parce qu'en fait, elle est en sens inverse du mauvais côté de la chaussée, donc face à lui. Voilà, j'ai reconstitué la scène. Voilà. Donc en fait, il s'agit d'une voiture, d'une berline, une Saturn noire de 1996, dont l'avant est visiblement endommagé. Mais le choc n'a pas été énorme. Hein. Les feux de la voiture sont éteints, ainsi que ses warnings. Donc qu'est-ce qu'il fait Atwood? Il s'arrête. Il s'arrête immédiatement, il va voir. Et dans l'obscurité, en fait, il discerne une silhouette de taille moyenne qui se tient à côté de la voiture. Il s'approche. Et en fait, il se rend compte qu'il s'agit d'une jeune femme dans la vingtaine. Elle est habillée d'un manteau sombre, Atwood s'approche d'elle, et pour s'assurer que tout va bien. Donc il s'approche assez près d'elle pour dire qu'elle ne saigne pas, elle n'a pas de sang sur le visage. En tout cas, elle a l'air frigorifiée, elle a froid, elle tremble. Elle a l'air un peu secouée quoi par rapport à l'accident. L'accident s'est probablement passé peu de temps auparavant. Donc c'est vrai que, bon... Atwood, il a un physique un peu impressionnant. Quoi. Mais c'est un brave homme, et bon, il propose son aide. Il est de prévenir le secours. Il dit, vous voulez que j'appelle les secours? Et la jeune femme refuse. Il dit, non, c'est pas la peine. En fait, j'ai déjà appelé l'assistance. Elle a déjà contacté l'American Automobile Association, AAA. En fait, c'est une association qui offre une assistance automobile pour les conducteurs qui ont des problèmes sur la route. Voilà. Donc, en attendant, Atwood propose à la jeune femme de venir chez lui. Il habite à environ 100 mètres, tout près, en fait. Il vit dans une maison pas loin du site de l'accident. Il vit avec sa mère et sa concubine. Mais la jeune femme refuse. Et bon, ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que Atwood, il a un physique qui est quand même un peu impressionnant, quoi. Donc, Atwood n'insiste pas. Il est intelligent, voilà. Il rentre. Il rentre chez lui, donc il remonte à bord de son véhicule et il rentre à son domicile. Donc, une maison en bois à 100 mètres plus loin, sur Wild Amunuzuk Road, dont vous voyez la photo, voilà. Mais Atwood, il n'est pas bête, parce qu'en fait, il sait pertinemment que la jeune femme lui a menti, parce qu'elle n'a pas pu appeler le AAA, l'assistance, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réseau pour les portables dans le coin. Il connaît parfaitement les lieux, il vit là, voilà. Donc, et puis, bien sûr, plus tard, on apprendra qu'aucun appel n'a été passé au AAA. Voilà. Donc, Atwood, il a juste un comportement assez suspect. Hein. Donc, il a l'impression qu'elle cherche à pas attirer l'attention. L'accident n'est pas très grave, mais bon, c'est quand même assez dangereux. Une voiture à l'arrêt, comme ça, sur la route. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Atwood? À peine rentré chez lui, il décroche son téléphone fixe, et il appelle, il compose le 911, numéro d'appel d'urgence aux États-Unis. Voilà. À 19h43, il est mis en contact avec le bureau du shérif du comté de Grafton, Détail très important, pendant qu'il parle au téléphone, Atwood ne peut pas voir le site de l'accident. C'est un angle mort, il ne peut pas voir. Mais il assure quand même entendre quelques voitures passer sur la route 112 devant chez lui. Voilà, c'est assez vague, mais bon, c'est ses déclarations. À 19h46, soit 3 minutes plus tard, un SUV portant le numéro 002 arrive sur le lieu de l'accident. Donc c'est un véhicule de la police de Haverhill. Notez, c'est important, il arrive sur la route 112 par l'ouest, comme Atwood. Donc ce SUV, bon, en fait, pour être très précis, il s'agit d'un 4x4 Ford Explorer, voilà, pour les amateurs. Donc le véhicule est conduit par un officier de la police de Haverhill qui s'appelle Cecil Smith. En fait, vous allez voir une photo de cet homme qui a été interviewé récemment sur le site Oxygène. Voilà, c'était il y a quelques mois, donc il a voilà, il a 14 ans de plus, mais c'est bien lui. Pourquoi est-ce que la police est arrivée aussi vite ? Eh bien, pour une raison simple, en fait, il se trouve que deux voisines, qui s'appellent Madame Westman et Marotte, qui habitent des maisons au bord de la route, ont composé le 911 dès 19h29, après avoir entendu le bruit de l'accident. Elles ont entendu le bruit de l'impact, donc elles sont allées à leur fenêtre, regarder derrière leur rideau, et voilà, elles ont composé le 911. Donc Smith, il arrête son SUV nez à nez avec la voiture de Maura, pas de Maura, de la jeune femme, voilà, avec la Saturn. Cette dernière est vide, la voiture est vide, et surtout, il n'y a plus personne aux alentours. Ça, c'est très important. Détail à retenir, il s'est écoulé seulement quelques minutes entre le moment où Atwood est parti, a laissé la jeune femme, et celui où la police a débarqué sur place. Un créneau très très court. Le nombre de minutes varie, on lit parfois 3 à 5 minutes, 5 à 7 minutes. Monsieur Murray, donc je vais parler tout à l'heure, lui, selon lui, la jeune femme aurait été vue près de sa voiture 1 à 2 minutes. Avant l'arrivée de la police. Donc quelques minutes, ça a été très rapide, donc la jeune femme a disparu très très vite, et autant le dire, on ne l'a plus jamais revue depuis. Donc une disparition extrêmement rapide. Donc l'officier Smith, qu'est-ce qu'il fait ? Il procède aux premières constatations. Pour lui, c'est un accident de la route, assez banal, hein, la circulation. Il voit que l'avant de la voiture, donc une Saturn, est assez abîmé, en fait, le capot est cabossé, le moteur est mort, le radiateur est encastré dans le ventilateur, donc vous voyez une photo de cette voiture qui a été ensuite entreposée, voilà, dans un garage pas loin. Donc Smith essaie d'ouvrir les portières de la voiture, mais en fait elles sont verrouillées. Un peu plus loin, donc il va ramasser, il voit quand même qu'il y a des choses dans la voiture, donc il voit notamment qu'il y a une bouteille de soda dans la voiture, et après on va se rendre compte que il y avait de l'alcool dans cette bouteille. Voilà. Autre détail important, il y a un impact sur le pare-brise côté conducteur, un peu plus haut, en forme de toile d'araignée un peu. Voilà, un impact. Voilà. Donc grâce à la plaque d'immatriculation, donc Smith, voilà. Il note la plaque, tout ça. Il réussit à déverrouiller les portières. Il vérifie à l'intérieur de la berline. Donc là, il voit que les deux airbags sont déployés. La clé n'est plus sur le contact. Donc la conductrice a emporté la clé. Smith, il regarde, il inspecte l'intérieur. Il voit qu'il y a des taches rouges dans l'habitacle. Mais il ne s'agit pas de traces de sang, mais de vin. En fait, il y a un carton de 5 litres de vin, Franzia, du vin bon marché, sur le siège avant passager. Un peu ouvert, enfin bref, ça a coulé. On va aussi relever des traces de vin dans la neige autour de la Saturn. Bref, il y a quand même de l'alcool sur place. Donc, Smith, il commence à se dire, voilà, dans son esprit de représentant de la loi, alcool plus accident plus conducteur qui a disparu, pour lui, c'est un conducteur qui a voulu partir avant l'arrivée de la police, quoi, qui avait bu, et puis voilà, ça commence à se mettre en place dans son esprit, hein. Donc après, il continue. On va trouver dans l'habitacle plein d'autres choses, encore des objets, notamment une carte du triple A. On va trouver une peluche des disques CD, du maquillage, une paire de gants en cuir, ça c'est intéressant, il faut, c'est important, on va en reparler tout à l'heure, et aussi deux feuilles imprimées en fait. Il s'agit de deux itinéraires routiers provenant de MapQuest. C'est un site internet en fait de calcul de trajet routier, l'ancêtre de Google Maps ou de Mappy en France. Bref, donc ce sont deux itinéraires pour se rendre à Burlington et à Stowe, deux villes de l'État du Vermont. En fait, il faut savoir que le Vermont, c'est juste à côté de Haverhill, la frontière. On est vraiment à la frontière entre le New Hampshire et le Vermont. Voilà. Donc après, bah, Smith, il est rejoint par des collègues, voilà, d'autres policiers. Ils inspectent les environs à la recherche de la personne qui conduisait la Saturne. Mais bon, ils ne voient personne. Personne. Bah après, Atwood, donc le conducteur de bus, va venir voir. Et bon, bah, il va expliquer qu'il y avait quelqu'un sur place. Voilà. Et donc, la personne a disparu. Bon, bah, je pense que là, le policier, de toute façon, il fait pas trop attention à ce que lui dit Atwood. Hein. Parce que, a priori, le nom du propriétaire est masculin. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Et s'agir d'une voiture volée. Enfin, bref. Donc, à mon avis... À cet instant-là, pour la police, la priorité, c'est de sécuriser l'endroit, quoi, hein, et de faire enlever cette voiture qui est dangereuse, gênante. Mais là, c'est encore très important, ce détail est très important. Les policiers ne voient aucune trace de pas dans la neige, partant en direction des bois proches. Donc, pour eux, la personne qui conduisait la voiture n'est donc pas partie à pied dans la forêt. Parce qu'autrement, on n'aurait pas pu louper des traces de pas dans la neige, à cet endroit. Donc ça, c'est très important. Bah, Smith, d'ailleurs, l'a redit il y a quelques mois encore. Personne n'est sorti vers la forêt, à cet endroit. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, 19h56, il y a un véhicule de secours médical et un camion de pompiers qui interviennent sur le site. Et il y a un homme qui s'appelle Dick Guy, un des membres de l'équipe médicale, qui va trouver cet accident un peu bizarre. Voilà. Ce qui va marquer noir sur blanc dans un mémo interne à l'époque. Il le trouve un peu bizarre, vu la configuration des lieux, il comprend pas vraiment comment la voiture a pu faire une embardée et percuter la congère à cet endroit. Il y a un autre détail qui est très étrange, c'est qu'on va découvrir dans le tuyau d'échappement de la Saturne un chiffon. C'est un chiffon du kit de sécurité de la voiture. Ça peut paraître saugrenu, néanmoins... On essaiera d'apporter une explication un peu plus tard. Voilà, donc ce chiffon, très bizarre. C'est pas qui l'a mis, pour quelle raison, on n'en sait rien. Donc après, bah, la Saturne, elle est remorquée voilà, par... Il y a un dépanneur du coin qui s'appelle Mike Lavoie, qui vient emporter la voiture. Donc la route est nettoyée. Donc bah, Smith, après, il considère qu'il a fait son boulot, hein, parce que bon, l'accident n'est pas très grave. Apparemment, il n'y a pas de blessé. Pour lui, c'est une intervention de routine. C'est très banal. Hein. Il considère que le propriétaire l'a volontairement abandonné pour ne pas avoir de problème avec la police. Voilà. Parce que le carton de vin laisse à penser qu'on a consommé de l'alcool à bord. Puis il y avait aussi la bouteille de soda. Voilà. Il faut noter qu'il y a un autre officier de police qui va venir. C'est un officier de la police d'État du New Hampshire, qu'on appelle aussi les state troopers, voilà, qui vient sur les lieux de l'accident. On va aussi parler de la police d'État tout à l'heure. On peut déjà dire, en gros, que la police d'État de New Hampshire, la police d'État, c'est la juridiction au-dessus de la police locale. Voilà. Celle de Haverhill, en l'occurrence. Donc, ce policier d'État, en fait, il s'est exprimé pour la première fois, il y a seulement quelques mois. Il s'appelle donc John Monaghan. John Monaghan va déclarer que, en fait, il est venu prêter assistance à la police locale. Apparemment, il n'a pas fait grand-chose, mais bon, il est là, il fait acte de présence, quoi. À 21h27, Smith, le policier de Haverhill, le premier qui est arrivé sur place, il est contraint de quitter les lieux pour répondre à une autre urgence. Voilà. De toute façon, il considère qu'il a fait son boulot. Hein. Voilà. Donc, en gros, tout le monde s'en va, il n'y a plus de voiture, plus personne sur le lieu de l'accident. Les policiers, les secours sont partis, le spectacle est terminé, les voisins vont se coucher. La nuit, voilà, on s'enfonce dans la nuit. Voilà. Donc, la nuit passe. Et le lendemain, on est donc maintenant le mardi 10 février 2004. Il va falloir attendre l'après-midi pour qu'il se passe quelque chose. Bon, en fait, l'officier Cécile Smith, il a un peu de temps, il est au bureau. Là, il fait son rapport sur l'incident de la veille. Je pense qu'il avait sans doute d'autres choses à faire avant. Voilà. Donc, à 15h20 l'après-midi, le mardi après-midi, ils appellent, les policiers appellent le propriétaire de la voiture Saturne noire, le propriétaire de la voiture accidentée qui avait été abandonnée. Cet homme vit à Bridgeport, dans le Connecticut, à 320 km de Haverhill, au sud. Voilà. Donc, très très loin de Haverhill. En fait, le propriétaire de la Saturne s'appelle Fred Murray. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, voilà. Mais Fred ne répond pas. En fait, il est en déplacement professionnel à ce moment-là. Donc, la police laisse un message sur son téléphone fixe, à son domicile, sur son répondeur. Mais M. Murray ne prendra connaissance de ce message que tard dans la soirée. Voilà. Vers 17h, Kathleen Murray, la fille aînée de Fred Murray, le contacte sur son téléphone portable et lui annonce qu'on a retrouvé la Saturne dans le New Hampshire. Donc Kathleen Murray, elle est inquiète parce que en fait, si la voiture elle appartient légalement à son père, c'est sa petite sœur Maura qui l'utilise. Maura Murray, donc une jeune étudiante de 21 ans, elle est inscrite à l'université du Massachusetts, UMass, voilà, dans la ville de Amherst, 230 km plus au sud, dans le Massachusetts donc. En fait, Monsieur Murray, il a plusieurs enfants, il a plusieurs filles, il a des garçons. On peut déjà dire qu'il a trois filles. Donc, il en a une qui s'appelle Kathleen, une deuxième qui s'appelle Julie, et la troisième, Maura, sa cadette. Voilà. À 17h44, Monsieur Murray, il appelle la police de Haverhill parce que sa fille lui annonçait qu'on avait trouvé, qu'on a trouvé sa voiture. Donc, il est assez inquiet. Donc, il appelle la police de Haverhill pour obtenir davantage d'informations. Il les supplie de commencer à chercher sa fille.